Les riches profitent des crises et deviennent toujours plus riches en en profitant. Cette phrase, tu as dû l'entendre de nombreuses fois, mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de comment, concrètement, font ces riches pour réussir à s'enrichir pendant les crises et pendant que tout le monde finalement s'appauvrit? C'est le sujet de ce podcast et tu verras que ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un stratagème vraiment secret, c'est quelque chose d'assez simple au final. Contrairement à ce qu'on pense, les riches n'ont pas de modèle précis, n'ont pas de stratégie que les autres n'ont pas, ils ont simplement une stratégie qui est différente, mais qui est accessible à absolument n'importe qui, c'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Ce qu'on pense généralement, c'est que pendant les crises, les riches vont magouiller, trouver des manières de profiter de la crise pour gagner de l'argent sur le dos des petites gens. C'est pas ça la réalité. La réalité, elle est beaucoup plus simple que ça. Ce que font les riches pendant les crises, c'est qu'ils font précisément l'inverse de tout le monde. Je vais développer ça et tu verras, c'est vraiment simple à comprendre. Ce qui se passe, c'est que pendant les crises, en général, on va prendre l'exemple de la crise du Covid qui a eu lieu en 2020. En 2020, les marchés financiers comme le CAC 40, hein, qui est l'indice principal en France, des 40 plus grandes entreprises françaises, il s'est effondré. Si tu regardes la courbe du CAC 40, il a eu une chute libre littéralement, de peut-être 20 ou 30% d'un coup sur quelques jours, quelques semaines. Qu'ont fait les riches à ce moment-là? Bah, les riches, ils ont acheté. Ils ont acheté massivement au moment où le marché était au plus bas. Pendant que, à l'inverse, les personnes, les petits épargnants, les petits investisseurs ont pris peur et ont revendu à ce moment-là. Donc, les plus pauvres ont revendu aux plus riches, qui ont acheté à ce moment-là et qui, bah, aujourd'hui, ont fait quasiment x2 sur l'investissement. Parce qu'entre le plus bas de 2020 et aujourd'hui, on doit être non pas à x2, mais à plus 80%. Donc, on n'est pas loin du x2. Donc au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement fait l'inverse de la masse. Là où la masse a peur, là où la masse revend parce qu'ils se disent que c'est fini, c'est la catastrophe, les riches ont une connaissance plus accrue du marché et des fonctionnements et se disent, bah, en fait, c'est pas parce que ça baisse maintenant que ça baissera encore et les fondamentaux sont suffisamment solides pour savoir que dans le futur, le marché devrait se remettre. Alors peut-être que oui, la crise aurait pu être beaucoup plus grave que ce qu'elle n'a été, peut-être que le marché aurait pu s'écrouler pendant encore 1 an, 2 ans, mais dans tous les cas, ce que savent les personnes qui achètent à ce moment-là, c'est que ça remontera un jour. Peut-être que ça prendra 2 ans, peut-être 3 ans, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, mais ça remontera. Autrement dit, ils font précisément l'inverse de la masse. Et ça, c'est vraiment une notion qu'il faut vraiment garder en tête et qui explique absolument tout. Si tu demandes pourquoi les riches sont toujours enrichis beaucoup plus que les pauvres pendant les crises, c'est la simple et seule raison. C'est qu'ils ont acheté pendant que les autres vendaient et ils ont vendu pendant que les autres achetaient. Parce que oui, il y a les deux qui fonctionnent. Quand les marchés remontent, quand les marchés sont au plus haut, qu'est-ce qui se passe? Bah, les petits épargnants, les petits investisseurs, c'est à ce moment-là qu'ils achètent. À l'inverse, les riches, c'est à ce moment-là qu'ils vendent en espérant avoir une correction de marché pour acheter plus bas. Bon, là, on parle beaucoup de bourse, on parle beaucoup d'investissement boursier, c'est pas vraiment le sujet de ce podcast, tu sais qu'on parle d'immobilier, mais au final, la même logique s'applique en immobilier. Quand est-ce que l'immobilier a le vent en poupe? Bah, c'est quand tout le monde en parle et c'est quand les prix sont au plus haut. En l'occurrence, c'était, on va dire, il y a 1 an, quand les prix étaient très élevés après le Covid, tout le monde parlait d'immobilier, tout le monde voulait acheter l'immobilier. Est-ce que c'était le meilleur moment pour en acheter? Pas forcément parce que les prix étaient hauts. Par contre, quand on cherche de bonnes affaires, à l'inverse du marché boursier, le marché boursier, tu es obligé d'acheter au prix du marché. Tu vois, tu as le prix de l'action, c'est par exemple 60 euros. Bon, tu dois acheter 60 euros, tu ne veux pas la négocier, c'est pas possible. En immobilier, un bien qui vaut 60 euros, tu peux l'acheter 50 en le négociant, en trouvant des stratégies, notamment grâce au off-market. Bref, tu peux réussir à faire des bonnes affaires, même si les prix sont élevés. Donc, c'est un petit peu différent, mais tu comprends l'idée globale de hausse du marché. Donc, tout le monde parlait d'immobilier à ce moment-là. Et pourtant, bah, c'était le moment, on va dire, le pire pour acheter parce que, de manière générale, les prix étaient élevés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on est dans une situation où les prix ont été corrigés en immobilier. Il y a une correction qui est légère, il n'y a pas une chute des prix parce que l'immobilier ne chute jamais en France, malheureusement. Moi, j'aimerais bien, ça me permettrait d'en acheter beaucoup plus, mais ça n'existe pas. Aux États-Unis, oui, il y a des chutes des fois de 30-40%. En France, malheureusement, ça n'existe pas. Alors, malheureusement ou heureusement, hein, ça permet aussi une stabilité, c'est aussi bien. En tout cas, il y a une légère correction de quelques pourcents, ce qui est quand même toujours une bonne chose à prendre. Et à l'inverse, eh ben, ce que font les personnes, c'est qu'elles attendent et qu'elles ne font rien. Exactement comme les personnes qui ont vu le CAC 40 chuter en 2020 et qui se sont dit, bon, bah, l'indice chute, il va encore chuter, il faut pas que j'achète. À l'inverse, que font les riches à ce moment-là, actuellement, pendant qu'on fait ce podcast? Bah, ils sont en ce moment même en train d'acheter. Parce qu'ils savent que la correction a été faite, ils savent que sur le long terme, le marché remontera, et donc ils vont gagner encore plus en achetant maintenant par rapport à s'ils avaient acheté il y a 1 an ou s'ils achetaient dans 1 an. Tu vois un petit peu la logique, finalement, d'inverser les comportements par rapport à la masse. Et c'est ce qui fait de toute façon qu'on réussit. Quand on réussit, c'est qu'on fait l'inverse de ce que font les autres, parce que c'est là qu'on se positionne sur des tendances inversées. Autre point, on va prendre l'exemple du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est donc la crypto-monnaie la plus connue, je pense que tu en as déjà entendu parler. C'est une crypto qui est montée en 2021, qui est montée jusqu'à 60 000 dollars pour un Bitcoin, donc un Bitcoin coûtait 60 000 dollars. Et à ce moment-là, je pense que tu as dû en entendre parler à ce moment-là, tout le monde en parlait. Ça passait à la télé, au journal de 20h, sur internet, sur les réseaux sociaux, partout, tout le monde ne parlait que de ça. Dans le milieu de l'investissement, le Bitcoin était la chose à suivre. Mais c'était à quel moment? C'était au moment où le Bitcoin coûtait entre 50 et 60 000 dollars. Autrement dit, au moment où il était au plus haut. Et c'est là où tout le monde en parlait, c'est là où tout le monde voulait en acheter. C'est normal, hein. Ce qui fait monter un cours, c'est le fait que tout le monde veuille en acheter. Donc c'était vraiment à ce moment-là qu'il y avait le plus gros engouement autour du Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé quelques mois plus tard? Le Bitcoin est passé de 60 000 dollars à 15 000 dollars. Donc il a été divisé par 4 en l'espace de peut-être un an. Donc division totale du prix du Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quand le Bitcoin était à 15 000 dollars, c'était il y a un peu moins d'un an. Est-ce que tu entendais parler? Est-ce que tu voyais au journal de 20h une rubrique spéciale crypto, une rubrique spéciale Bitcoin? Non, absolument pas. Pourquoi? Parce que la masse avait déjà enterré le Bitcoin en se disant « Cette crypto-monnaie, c'est fini, ça ne marchera plus, elle va aller à la cave, elle va descendre à zéro et on n'en parlera plus jamais. » Pendant ce temps, encore une fois, les personnes les plus riches, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles en ont acheté à 15 000 dollars en solde. Le prix étant passé de 60 000 à 15 000, elles se sont dit « Ok, je vois le potentiel de cette crypto-monnaie, je pense que ça va continuer d'augmenter par la suite, je pense que ça remontera, le prix est très bas, prenons le risque. » Alors évidemment, elles n'ont pas mis tout leur patrimoine dessus, elles ont acheté un petit peu. Voilà, pourquoi pas. Et elles se sont dit, bon, on verra bien. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Aujourd'hui, le Bitcoin vaut 35 000 dollars. Donc les personnes qui ont acheté à 15 000 dollars à ce moment-là, elles ont fait plus de x2 en l'espace de même pas un an. Simplement parce qu'elles ont acheté alors que personne ne voulait acheter. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter du Bitcoin? Je pense pas. D'ailleurs, c'est pas du tout le sujet de ce podcast. On parle pas de crypto ici. Par contre, d'ailleurs, si elle a déjà fait x2, c'est peut-être justement un peu trop tard. On se retrouve peut-être bientôt dans une hype qui ferait que tout le monde va se mettre à en reparler et qui l'amènera plus tard à sa chute. Mais en tout cas, les personnes ont fait l'inverse. Elles ont fait l'inverse de tout le monde et elles ont acheté quand personne n'en voulait. Peut-être que dans quelques mois, le Bitcoin va continuer d'augmenter et repasser peut-être la barre des 50 000 dollars. À ce moment-là, tu verras, tous les médias se remettront à en parler, les personnes autour de toi vont se remettre à t'en parler, vont probablement se mettre à en acheter. Et qu'est-ce qu'il se passera inévitablement quelques mois plus tard? La nouvelle chute. Pendant que tout le monde se pensera qu'il fallait en acheter à ce moment-là, que c'était le bon moment, ben au final, c'est ces personnes-là qui perdront le plus parce qu'elles auront acheté tout en haut de la vague. Heureusement, l'immobilier, comme je te dis, il n'y a pas ces vagues-là. C'est à tout l'avantage d'un actif qui est stable et c'est pour ça que je ne recommande pas du tout d'acheter des crypto-monnaies parce qu'évidemment, c'est extrêmement risqué et parce que c'est un risque de perte. L'immobilier en France, il perd 10%, c'est un cataclysme. Hein, donc bon, 10%, ok, ça peut paraître beaucoup, mais au final, c'est pas grand-chose et ça remonte généralement par la suite. Donc le but étant d'acheter des actifs comme ça qui sont stables et de ne pas se laisser avoir par cette hype. Pour autant, c'est pas parce que l'actif immobilier est stable qu'il ne faut pas profiter des tendances. Actuellement, tout le monde est dans l'attente. Tout le monde est sur le marché immobilier en train d'attendre parce qu'ils se disent « Waouh, les taux d'intérêt sont élevés, j'attends un petit peu. » Et c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce que je vais te donner une stratégie qui est très simple, que tu peux exploiter toi aussi. Les taux d'intérêt ne sont absolument pas un blocage et au contraire, c'est même un avantage. Quand les taux sont élevés, tu vas pouvoir négocier plus facilement. Donc, tu vas pouvoir payer un petit peu moins cher, comme j'ai dit, quelques pourcents de moins qu'avant. Très bien. Tu vas me dire, ouais, je paye moins cher, mais par contre, mon crédit me coûte plus cher. C'est vrai. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les taux sont stabilisés. Là, depuis quelques mois, enfin depuis quelques semaines pour être précis, les taux n'augmentent plus en France. Donc, la BCE a voté la stabilisation des taux. Probablement, on peut espérer que dans les prochains mois, les taux vont commencer à descendre. Donc là, ce que pensent les gens, c'est « Ok, les taux vont commencer à descendre, super, je vais acheter en 6 mois, je vais acheter en 1 an. » C'est une erreur. L'erreur, c'est de faire ça. La bonne chose à faire, c'est d'acheter maintenant, avec un taux qui est certes plus élevé, mais avec un prix d'achat qui sera plus bas. Et quand dans quelques mois, dans quelques années, les taux baisseront, de faire ce qu'on appelle un rachat de prêt. Un rachat de prêt, ça permet de faire racheter son prêt par une autre banque, ou par la même banque d'ailleurs, à un taux plus faible. Imaginons que le taux actuel soit de 4%, tu empruntes à 4%, dans 2 ans, le taux est à 2%, eh bien, tu peux faire racheter ton prêt à 2%. Et donc, tu as divisé par 2 ton taux d'intérêt. Et donc, au final, tu auras bénéficié du meilleur des deux mondes, tu auras à la fois payé ton bien moins cher dès le début, et en plus de ça, si les taux baissent, eh bien, tu vas pouvoir renégocier ton prêt et payer moins cher ta mensualité. Donc, tu auras la même mensualité que la personne qui achètera 2 ans plus tard, sauf que toi, tu auras acheté 2 ans plus tôt à un prix avantageux, parce que, je te le dis tout de suite, hein, quand les taux vont baisser, ce qui se passe systématiquement, c'est que les prix augmentent. C'est tout. La logique, elle est comme ça en immobilier. Ça, c'est peut-être bête, c'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Donc la personne qui achètera dans 2 ans et qui attendra payera plus cher que tout le monde. Et en plus, elle n'aura aucun avantage que la personne qui aura acheté aujourd'hui. Elle aura le même taux d'intérêt en ayant fait racheter son prêt. Donc tu vois, la stratégie, elle fonctionne extrêmement bien quand on réfléchit vraiment sur le long terme et quand on fait vraiment l'inverse de la masse. Autre chose, l'achat-revente. L'achat-revente, on en parle beaucoup sur ce podcast. L'achat-revente, c'est le fait d'acheter un bien et de le revendre rapidement, donc sous 6 mois, 1 an maximum. Bah, même chose, quand tu payes un taux d'intérêt pendant 6 mois, bah, au final, que le taux soit de 2% ou de 4%, ça ne change pas grand-chose. Ta mensualité va augmenter légèrement, enfin, en l'occurrence, c'est au trimestre que tu payes, mais donc, t'as ton ton paiement trimestriel augmente légèrement, mais vu que tu vas le payer seulement pendant 3 mois, 6 mois ou 9 mois maximum, bah au final, ça va augmenter ton crédit de quelques milliers d'euros, mais tu peux toujours faire d'excellentes plus-values quand même. Et ça ne change pas grand-chose à ta rentabilité. Mais à l'inverse, tu vas quand même payer beaucoup moins cher ton bien parce que tu vas pouvoir jouer sur cet aspect taux d'intérêt pour le payer moins cher à l'achat. Donc tu vois qu'au final, quand on retourne le problème, on comprend beaucoup plus facilement pourquoi les riches s'enrichissent toujours plus pendant les crises et comment, bah, du coup, tu peux toi aussi faire pareil sans avoir besoin d'avoir tous leurs instruments, tous leurs outils ou tous leurs conseils, mais en réfléchissant justement aux logiques de marché et à pourquoi la masse ne fait pas quelque chose et pourquoi la masse fait quelque chose. Voilà, je te laisse réfléchir là-dessus. Si tu veux en savoir plus et avoir une stratégie complète à appliquer dès maintenant, tu as une nouvelle vidéo qui est en lien de ce podcast. C'est une toute nouvelle vidéo, hein. C'est pas du tout la même que tu as dans les épisodes précédents. On a refait une vidéo complète qui s'adapte parfaitement à cette fin d'année 2023, donc elle est vraiment dédiée à cette fin d'année 2023 et cette année 2024 avec le contexte économique actuel et comment tirer profit de ça avec quelques-uns des éléments que tu as vu dans ce podcast pour réaliser de belles opérations, acheter beaucoup moins cher et justement tirer profit de la brèche qui est en train de s'ouvrir actuellement et qui ne s'ouvre que quelques fois par décennie maximum. Donc il faut en profiter maintenant, ça se fermera probablement dans quelques mois, peut-être un an et demi maximum. Donc c'est maintenant qu'il faut en tirer profit et ne pas regretter dans les années à venir pendant que tu auras vu toutes les personnes réussir à faire des opérations maintenant et que tu regretteras de ne pas avoir sauté dans le train à ce moment-là. Je te laisse cliquer là-dessus et on se retrouve directement là-bas.